9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bien le bonjour mes camarades, Maître Serran est ravi de vous retrouver, même si je dois reconnaître, mon cher Philippe, que j'ai un peu la tête dans le... mais je peux me permettre quand même d'utiliser le terme, c'est pas l'émission avec l'imam, sinon je peux dire la tête dans le khalsa, mais en arabe ça veut dire absolument la même chose. En fait, puisque j'étais là hier soir à 20h, j'aurais dû dormir à la radio. Ça aurait été plus simple pour moi. Et en plus, on aurait pu demander à notre ami Adil Farkan d'appeler les mêmes demoiselles qui étaient venues à la radio, vous souvenez, pour son anniversaire et qu'oubliaient leur string au bureau. On aurait passé une bonne soirée tous ensemble. Mais heureusement que nous sommes la veille du week-end. Alors je vous préviens tout de suite, mon cher Philippe. Je crois qu'il ne faudra pas compter sur Maître Serran pour l'émission de demain soir. Je pars en week-end. J'ai besoin de me ressourcer. Tiens, vous savez où je vais, hein ? Vous ne savez pas où je vais ? Eh bien, c'est vous, en plus, qui m'avez donné l'adresse. Vous m'avez précisé qu'à cette adresse-là, vous étiez reçu comme un VIP. Vous savez, c'est le camp de naturistes que vous fréquentez très régulièrement. Eh oui, mec, voilà, quelqu'un t'a l'air tout le week-end. Non, je plaisante, mon cher Philippe, Nal Shaitan. Vous pensez bien que durant le week-end, je ne vais pas faire ça. Tiens, d'ailleurs, en fait...
C'est pas la saison, hein, c'est un peu frais, je ne vais pas dire.
Non, mais c'est un dôme. Oui. Vous me l'avez expliqué, c'est un dôme qui est chauffé. Alors quand même, faites pas semblant, vous connaissez bien l'endroit. Tiens, d'ailleurs, je passe un grand bonjour à Ahmed, Karim, Boubacar et Mohamed, des détenus que j'ai rencontrés hier, que j'ai défendus en commission disciplinaire à Villepinte. Attention, la rencontre avec ces quatre camarades a été particulière. Je suis dans une petite pièce pour m'entretenir avec les types. Dès que le premier arrive, je me présente à lui. Bonjour, c'est Maître Serran, c'est moi qui vais assurer votre défense. Il me raconte son histoire, je lui pose des questions. Et à la fin de l'entretien, il me dit « Mais vous avez le même nom qu'un avocat qui passe à la radio, à Beurre FM. C'est vous ?» Alors moi, prudent, je me dis « Mourad, réfléchis bien. Imagine que ce type a une dent contre toi. » Hein, on est dans une pièce qui fait 4 mètres carrés, donc je me dis, ça peut partir en embrouille. Donc je lui réponds, non, c'est pas moi. Mais je lui dis, sinon vous pouvez me parler de cet avocat. Et donc il commence à me parler de cet avocat, il me dit, écoutez-le, il passe le vendredi, et en ce moment, il passe vers 20h. Mais en plus, vous avez la même voix que lui. Je me dis qu'à ce moment-là, le type est bienveillant, et je m'autorise à lui dire, ouais. En fait, c'est moi. Résultat, avec les autres détenus, on a parlé plus de la radio que de leur dossier. D'ailleurs, chacun d'entre eux m'a parlé de vous, mon cher Philippe. Je leur ai dit la vérité, hein. Je leur ai dit que vous étiez infect et autoritaire. Mais non, en fait, je ne me suis pas autorisé à dire ça. Mais je leur ai indiqué que Philippe Robichon était un type très sympathique. D'ailleurs, la preuve, je vous ai dit que ce week-end, je serais absent. Vous m'avez dit, pas de problème, mon cher Mourad. Allez, j'arrête de faire le pitre. Place aux auditeurs 01 53 48 3000. Posez toutes vos questions. Émission sous le contrôle de M. Philippe Robichon, Beurre FM. C'est tout droit, c'est parti.
Maître Serran, alors je n'ai pas signé votre bon de sortie pour ce week-end, mais bon, on en reparlera. Maître Serran présent tous les soirs. Sur Beurre FM dans l'émission Allô l'imam à 20h, puisque c'est vous qui ouvrez cette émission. Et on va parler du ramadan et du droit du travail. Et justement, que dit le droit du travail sur le mois du ramadan? Est-ce qu'il existe des aménagements légaux?
Alors, le droit du travail ne dit rien en la matière. C'est-à-dire qu'on n'a pas un texte, on n'a pas une loi qui viendrait, entre guillemets, encadrer les périodes du ramadan. On a parfois des accords, et en règle générale, ce sont les grosses structures et les grosses entreprises, mais dans la majorité des sociétés, il n'y a pas de texte réglementaire, il n'y a pas de loi qui viendrait encadrer cet aspect-là. Donc en fait, tout se joue, entre guillemets, dans la négociation. Alors c'est assez trompeur, puisqu'on pourrait dire, puisque le salarié ne bénéficie pas d'un texte qui viendrait soutenir sa demande, moi, patron, je pourrais refuser d'accorder des aménagements d'horaires et autres à ses salariés. Juridiquement, tout ça est vrai. Sauf que, il faut savoir que si, et on prend souvent l'exemple des routiers, si vous êtes routier, si vous faites le ramadan, si vous l'avez signalé à votre employeur, et pour des raisons X ou Y, il vous dit, c'est comme ça et pas autrement. Mais si vous deviez être à l'origine d'un quelconque accident, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagé. Alors évidemment, tout ça après est une question de preuve. Quand c'est comme ça, s'il y a une discussion juste avec votre employeur pour lui dire je fais le ramadan, j'aimerais un aménagement d'horaire, il vous dit non et vous arrive un pépin, vous pourrez pas le prouver. Mmh. Donc quand c'est comme ça, faut pas hésiter à ce qu'il y ait quand même une petite trace écrite, un petit courrier ou un mail juste pour dire voilà, période du ramadan, j'aimerais que, sait-on jamais. En règle générale, la plupart quand même des employeurs, pas fous, puisqu'il y a un vrai problème de responsabilité, font en sorte d'accorder quand même des aménagements, de permettre à leurs salariés de pouvoir exercer le ramadan, mais de faire en sorte d'être performants également pour leur travail. Et ça, c'est important. Il y a quelques années, on a eu une personne qui a eu, entre guillemets, une baisse de régime, alors considérable, à la suite du ramadan, et cette personne a été licenciée. Alors pas parce qu'elle faisait le ramadan, mais parce qu'on a considéré que durant cette période, et c'était un poste quand même à responsabilité, que manifestement le ramadan, entre guillemets, avait terrassé, puisque durant cette période, cette personne a eu une baisse de régime importante, et même un contrat qui a été loupé. Donc là, le conseil des prud'hommes avait reconnu la légalité du licenciement sans indiquer que, comme c'était le ramadan, l'employeur aurait dû faire un effort. L'employeur a fait cet effort-là, mais malgré cet effort-là, il y a une baisse de régime. Donc on a licencié l'intéressé, pas parce qu'il faisait le ramadan, mais parce que l'intéressé était moins performant, certes, durant la période du ramadan, mais le conseil de prud'hommes n'a pas considéré que l'employeur était en faute.
Alors, est-ce que l'employeur peut refuser des congés payés à un salarié qui demande de prendre ses congés pendant le mois du ramadan?
J'allais presque dire même chose. Après, c'est une histoire de bon sens. C'est-à-dire que l'employeur qui ferait preuve d'un peu d'intelligence pourrait considérer, entre guillemets, que ses congés tombent bien, ça va arranger tout le monde. Il se trouve parfois que, et ça faut pas l'oublier, que l'employeur s'organise aussi en fonction des commandes, en fonction des autres partenaires, en fonction des autres
sociétés. Et pas en fonction du mois du ramadan.
Eh oui, donc c'est vrai que ça pourrait sembler logique et on pourrait se dire que ça pourrait convenir à tout le monde. Sauf que, alors, quand vous êtes le salarié, peut-être que ça peut vous convenir. Quand vous êtes l'employeur, vous avez quand même une boîte à faire tourner. Donc là encore, on ne peut pas l'imposer à l'employeur. Mais
de toute façon, on n'est pas obligé de justifier le motif de refus des congés.
Non, mais l'employeur n'est pas obligé d'accepter à ce moment-là. C'est-à-dire, il faut aussi que la boîte soit performante. Il faut aussi que la société tourne. Donc c'est vrai que la discussion, si demain il y a un litige, on ne va pas dire, écoutez, parce que c'est période de ramadan, mais l'employeur ne va pas répondre là-dessus. D'ailleurs, il n'a pas à répondre par rapport à une connotation entre guillemets religieuse. Donc là encore, si dans votre question vous laissez entendre est-ce qu'on peut l'imposer, non. Après, sincèrement, dans la grande majorité des cas, les employeurs sont pas fous, les directeurs des ressources humaines ne sont pas fous non plus, donc ils font en sorte de contenter tout le monde. Et puis c'est important aussi, quelle que soit la société, si votre salarié a entre guillemets une dent contre le patron, contre la direction, il est certain que tout le long de l'année, il sera un petit peu moins performant, il sera pas motivé. Donc c'est aussi une question de motivation, c'est aussi une manière de faire aimer sa société. Alors, pas faire aimer l'employeur, mais au moins faire aimer sa société et motiver, entre guillemets, ses salariés. Donc, il y a aussi cet aspect psychologique et l'employeur intelligent prend ça en considération.
La question des repas d'affaires, alors là, effectivement, si vous êtes quelqu'un qui travaille, qui est vendeur ou qui est chargé ou responsable des ventes et que vous êtes tenu d'assurer un certain nombre de repas d'affaires, est-ce que un employeur peut vous obliger à assister à un repas important pour une signature de contrat ou...
Mais bien sûr, on pourrait l'entendre et le comprendre. On a parfois effectivement des contrats qui se signent autour d'une table au sein d'un restaurant et pas ailleurs. Donc il est certain que si vous invoquez cet aspect-là et vous faites perdre un contrat important, et ben l'employeur donc pourrait mettre cet élément à votre décharge et pourquoi pas donc entre guillemets vous sanctionner. Et mais là encore, ce serait qu'on le veuille ou non dans l'intérêt de personne, parce qu'une société qui s'amuserait à faire ça, c'est aussi faire de la mauvaise publicité.
Après,
voilà pour cette société. Mais la règle étant que le salarié ne peut pas, par principe, imposer entre guillemets, son emploi du temps, imposer ses horaires au motif qu'il ferait le ramadan. Ça, c'est une règle et c'est un principe. Donc après, tout se fait, encore une fois, en
bonne intelligence.
Et en bonne intelligence, donc bonne intelligence du côté de l'employeur, mais bonne intelligence et compréhension aussi du côté salarié.
Mmh. On peut reporter sa pause d'âge, parce que de toute façon, la pause d'âge pendant le mois de ramadan, elle sert à rien finalement.
Elle sert à rien et c'est tout à fait possible. Et entre guillemets, la négociation, si on peut parler de négociation, se fait souvent à ce niveau-là.
Ouais. Allez, 01 53 48 3000, si vous posez vous souhaitez poser vos questions à Maître Serran, le standard est à votre disposition. Maître Serran qui travaille bien sûr pendant ce mois du ramadan, vous pouvez interroger sur son téléphone cellulaire.
Oui, c'est vrai, 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64. Je précise que mon adresse mail apparaît sur le site de Beurre FM, parce que souvent on me dit, vous donnez plus l'adresse mail. Mais vous allez sur le site de Beurre FM, vous trouvez mon adresse mail.
On le trouve où, tiens, justement, il y a une page qui vous est consacrée, Maître Serran ?
On me cite, et puis il y a mes coordonnées, notamment mon adresse mail.
Ouais, ça c'est pratique, c'est plus pratique.
Ouais, comme ça, ça évite entre guillemets, de perdre du temps à le dire à chaque fois.
Est-ce que vous constatez que vous avez moins de clients pendant le mois du ramadan ? Ou ça n'a aucune incidence ?
Non, ça n'a pas. Ça n'a pas d'incidence, c'est-à-dire qu'au niveau des appels téléphoniques et tout ça, ça ne change pas. Après, au niveau des rendez-vous, oui. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme le salarié et l'employeur, je suis aussi obligé de me caler par rapport à cette situation, moi-même faisant le ramadan, donc je peux comprendre et l'entendre. Donc c'est vrai que souvent, quand on est au stade de se fixer un rendez-vous, l'intéressé n'hésite pas à me dire qu'il fait le ramadan, et donc je prends ça en considération. Ouais, bien sûr.
Allez, 01 53 48 3000, Farida est au standard. Farida, bonjour et bienvenue.
Bonjour maître.
Bonjour Farida.
Bonjour. Voilà, je voudrais vous exposer mon problème. Voilà, nous avons une maison héritée d'une maison de nos défunts parents en Algérie. Nous sommes 8 héritiers parmi nous. On a une sœur qui souhaite vendre la maison. Et puis, pour arriver à ses fins, elle a fait une demande d'expertise en vue d'une vente aux enchères. Donc, je voudrais savoir quel recours est-ce qu'on pourrait avoir, parce que là, on est vraiment désespéré, quoi.
En fait, il y a un principe. Il faut savoir que dans le cadre de ce qu'on appelle une indivision, c'est-à-dire une indivision, c'est quand un bien appartient à plusieurs personnes, n'importe lequel des intéressés peut décider de sortir de cette indivision. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imposer à un frère, à une sœur, de dire il y a une partie de cette maison qui est à toi, mais et quand bien même ce serait la majorité, nous on veut pas vendre, c'est comme ça, et puis tu patienteras jusqu'à ce qu'on soit éventuellement tous d'accord. Donc soit il y a un accord entre vous, et puis vous essayez d'en tirer entre guillemets un prix raisonnable pour que chacun s'y retrouve, soit il y a pas d'accord entre vous, et puis il est certain qu'un bien qui part aux enchères, la conséquence, c'est qu'en vérité, chaque frère et sœur va être lésé. Puisque quand ça part aux enchères, en règle générale, le bien se vend beaucoup moins cher que si il se vendait de gré à gré. C'est-à-dire si vous-même, vous avez mis ce bien sur le marché et si vous avez trouvé un acquéreur. Donc voilà, c'est une vraie question qui se pose souvent, mais vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de rester dans l'indivision.
Parce qu'on lui a proposé de prendre sa part, hein. On lui a pas imposé, hein.
Non, mais dans le sens où si elle veut, elle dire ce bien m'appartient aussi. Il appartient à tous les frères et sœurs, mais oui. L'un des membres de la famille dit moi je veux récupérer mon argent et je veux vendre ce bien. Vous pouvez pas lui dire nous on veut garder cette maison. Elle peut vous imposer entre guillemets cette vente.
Même si on lui propose de donner sa part.
Après, les gens ont le droit d'être compliqués, mais si, encore une fois, si elle fait partie de la fratrie et si juridiquement ce bien lui appartient aussi, oui, elle a le droit de l'imposer. Et de dire, moi, c'est ce bien que je veux vendre, et puis de ce qu'on en sortira, on va partager. Quand bien même vous seriez amené, entre guillemets, à lui faire un chèque et lui dire, la maison est estimée à tant, nous, on va te donner ta part. Elle a le droit de dire ce bien, encore une fois, il me revient aussi légitimement, et moi, je veux le vendre. C'est une règle, en fait. On peut pas imposer une indivision aux uns et aux autres. Dès qu'une personne veut sortir de l'indivision, c'est cette personne-là qui peut l'imposer à tous les autres.
D'accord. Ok. Bon.
Alors, en fait, il n'y a pas de solution.
Non, la matière, non. Après, enfin voilà, après, à part, entre guillemets, essayer de la raisonner, puisque je vois bien que vous êtes de bonne foi. Maintenant, après, il faudrait peut-être aussi se poser la question, pourquoi, entre guillemets, cet entêtement. Donc, mais là, je crois que ça relève pas de l'aspect purement juridique, parce que vous me dites, vous êtes prête à, et malgré ça, elle refuse. Il faudrait plutôt creuser la question à ce niveau-là.
Mmh.
Bah, le pourquoi du refus, ou pourquoi cette obstination.
Ok, d'accord. Ouais. Bon. Ok, merci.
Merci, on sent qu'elles sont plusieurs à poser des questions. Là. Il y a plusieurs sœurs, à mon avis, là.
C'est toujours délicat, ce genre de situation. Je peux l'entendre et le comprendre, évidemment.
Nos parents, avant de décéder, avaient dit que c'était la maison, ce serait pour tout le monde.
Ouais.
Il est évident qu'à un moment donné, on allait la vendre. Parce qu'on a tous un certain âge, mais pas la vendre tout de suite, quoi. Qu'on en profite un petit peu. Mais elle veut. En plus, elle est vraiment pas à l'abri du besoin. Elle a ce qu'il faut. On n'arrive pas à comprendre encore.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que, indépendamment de l'aspect juridique, c'est que bon, manifestement, il y a entre guillemets peut-être un petit contentieux, et parfois c'est dans ce genre de situation où les rancœurs font surface. Donc il faudrait plutôt creuser à ce niveau-là.
D'accord. Merci. Attendez, ne quittez pas, je vais passer une de mes
phases. Alors Farida, on va marquer une petite coupure et on revient dans un instant. Si vous voulez poser d'ailleurs vos questions à Maître Serran, c'est le 01-53-48-3000 que vous composez, 01-53-48-3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et Maître Serran qui répond à vos questions. Alors, une question à Maître Serran, hein, puisque vous êtes nombreux à l'attendre au standard au 01-53-48-3000. Farida a appelé avec toute sa famille, donc Farida a droit à une deuxième question. Farida.
Non. Oui, alors moi, c'est une autre sœur. Hein.
Alors, comment vous prénommez-vous,
Farida? Alors, je m'appelle Wazania.
Wazania. Bien.
Voilà.
Allez-y, voisin.
Alors, vous êtes combien de sœurs? Comme ça, on se prépare.
On est 5 sœurs. Mais ce sera la dernière.
Donc, ça sera un tarif de groupe hein, pour Maître Serran. Allez-y, Maître Serran.
Voilà. Si j'ai bien compris, bon, il n'y a pas de solution. On a voulu lui donner sa part. Elle n'a pas accepté. Donc, elle veut vendre la maison aux enchères. Le tribunal l'a accepté. Donc, c'est quoi la procédure qui suit? On va être convoqué au tribunal tous.
Oui, voilà. Il y aura une audience après. En règle générale, quand un bien est mis aux enchères, les personnes qui sont concernées se présentent. Mais il y a pas d'obligation. Après, si vous avez envie d'y aller ou pas. Ça va être au mieux 10 ans, celui qui mettra entre guillemets le plus d'argent sur la table va emporter le bien, et puis cet argent ensuite va faire l'objet d'un partage entre les uns et les autres.
Est-ce que Maître Serran, est-ce que c'est possible par exemple que la juge, parce que si on y va, parce qu'à ce moment-là moi je pensais à quelque chose, est-ce qu'on si on y allait tous en force, hein, les 8 frères et sœurs. Si on y allait, puis que la juge, on dit à la juge, voilà, nous, on a voulu honorer la mémoire des parents, parce que c'est des anciens, ils ont voulu garder cette maison pour toute la famille. Ils nous ont dit qu'il fallait absolument pas la vendre. On est tous d'accord pour pas la vendre. Il y en a qu'une qui veut la
non,
vendre.
J'entends bien.
Est-ce que la juge, elle a le droit de, elle a le pouvoir de
non.
nous écouter et de dire, écoutez, ils veulent vous donner votre part, vous
non.
la prenez.
Non, je trouve, et ça pourrait sembler logique et évident. Alors évidemment, un magistrat peut vous écouter, mais un magistrat n'ira pas à l'encontre de la loi. C'est une indivision. Je peux, soit pour des bonnes raisons, soit pour des mauvaises, soit par caprice, soit pour vous embêter, dire, moi, j'ai plus envie de faire partie de cette indivision. J'ai le droit. Voilà.
C'est-à-dire que la juge, elle écoute une personne et pas les 8 autres.
Non, c'est pas ça. Ouais.
Non, mais la juge applique les textes de loi. Je vous dis, il y a une règle. Hein. Alors, ça, je peux comprendre hein, que ça puisse vous froisser, puisque c'est la maison qui appartenait à vos parents. Donc ça, je l'entends, je le comprends, sincèrement. Après, il se trouve que parfois, au sein des familles, il y a toujours un membre de la famille qui joue, entre guillemets, le vilain petit canard et qui va embêter tout le monde et qui n'en fait qu'à sa tête. Mais dans le cadre d'une indivision, si j'ai pas envie d'y rester, je n'y reste pas. C'est pour ça que je vous dis, indépendamment de l'aspect purement juridique, il faudrait essayer de comprendre le pourquoi du comment. Enfin, voilà. Bon, j'imagine que vous avez probablement tenté des médiations et autres, mais bon, oui. Je vois bien que c'est pas le problème. C'est pas un problème juridique. Voilà, il y a une difficulté ou il y a une vieille rancœur entre vous et cette sœur.
Donc, il n'y a aucune chance de pouvoir garder cette maison. Pour honorer la mémoire de nos parents, c'est ce qu'on voulait, mais bon, il n'y a rien à faire alors.
Bah là, ça me semble difficile si elle est fixée et si elle veut sortir de l'indivision.
Ouais. Bon, bah, j'avais cet espoir que la juge avait le pouvoir de me dire bah, écoutez, je vais tous vous donner votre part, je vous contrains à l'accepter.
Non, il n'y a pas. Le magistrat ne peut pas contraindre à. Ça, c'est sûr.
Bon, tant pis. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, maître Sierra.
Merci à vous pour votre appel, merci.
Ça a été très clair et bon, vous êtes tous sympathiques.
Merci bien. Bon courage à vous.
Et restez comme vous êtes.
On salue toutes les sœurs qui nous écoutent. Là. À bientôt.
Salutations à toutes les sœurs.
À bientôt, au revoir.
Alors, Hashmi qui est avec nous, ou Hashmi. Hashmi, bienvenue.
Oui, bonjour.
Oui, bienvenue, on vous écoute. Maître Serran, écoute votre question.
Bonjour, maître.
Bonjour.
Je suis au CPH dans les Bouches-du-Rhône. Je connais bien le code du travail, mais je ne connais pas le code au niveau des décès. Alors, il y a un truc, ben, c'est un petit peu la même chose que la famille qui vient de passer. Mais par contre, moi, j'ai perdu un frère qui était marié et qui a deux enfants. Bon, je sais qu'il y a quelque part qui viennent au niveau des enfants, mais est-ce qu'au niveau de sa femme... elle peut, elle aussi, par exemple, si elle a une part, demander de vendre la maison, par exemple.
Oui, c'est un principe qui s'impose pour tout ce qui est indivision. Encore une fois, l'indivision, c'est qu'il y a un bien et puis j'ai une part, un tel a une part. Donc, personne ne peut contraindre quelqu'un à rester dans cette indivision. Alors, la logique voudrait, ou le bon sens voudrait, qu'il y ait, entre guillemets, une sorte d'accord entre les uns et les autres pour éviter que le bien passe entre les mains de X ou de Y. Ça, c'est le bon sens. Mais voilà, dans ce genre de situation, on a rarement du bon sens. Donc, si elle a une part, oui, elle peut elle aussi demander donc à sortir de ça.
Excusez-moi, une part. Je sais pas. Oui, normal. Si vous me dites qu'elle a une part, c'est-à-dire que c'est la femme de mon frère. Mon frère est décédé. Il a laissé deux enfants. Est-ce que elle a le droit de décider? Elle a pas de part pour le moment.
On n'est pas dans le cadre d'une indivision. Donc non. Donc là, en la matière, non. Et puis si, ils ont quel âge, les enfants?
Eh bien, il y en a un qui a bientôt 16 ans, et l'autre, et la petite fille qui a 11 ans.
Après, sur le principe, si, entre guillemets, madame, pour une raison X ou Y, décide ou souhaiterait se débarrasser, entre guillemets, du bien, alors évidemment, les enfants ont leur mot à dire. Alors, ils sont mineurs, mais ça voudrait dire... une procédure, la désignation d'un administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va représenter les enfants, et puis cet administrateur se posera la question de savoir si ce qui est fait par madame est ou pas dans l'intérêt des enfants, ou est-ce que les enfants peuvent ou pourraient être lésés. Mais vous avez bien compris que c'est entre guillemets c'est une procédure, et puis c'est toujours délicat de parce que ça voudrait dire quoi concrètement que les enfants seraient contre la mère, vous voyez, le raisonnement, ce serait oui. Ça.
Mais enfin, le raisonnement, pour nous, c'est simple. Les enfants, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a aucun truc avec les enfants. Bon, ils sont toujours corrects avec nous. On les adore, les enfants. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on a des difficultés avec leur mère, qu'automatiquement, qui a toujours des petits problèmes, qui n'est pas bien dans sa peau. Alors, c'est pour ça que, bon, automatiquement, nous, pour le moment, on nous a rien demandé. Hein, mais on se prépare, je me prépare par rapport à ça, parce que je suis le frère aîné, comme mes sœurs s'occupent, enfin, mes sœurs et mes frères me demandent de s'occuper de cette affaire, j'essaie de savoir...
Mais la difficulté, ce serait quoi, monsieur? C'est-à-dire que, bon, c'est l'épouse, et si elle décide de vendre, ça poserait quoi comme problème? Enfin, concrètement?
Non, c'est-à-dire que nous, peut-être que je me suis mal estimé au départ, nous, notre bien, c'est nos parents qui nous l'ont laissé. Et étant donné que bon, mon frère est décédé, bon, vous savez qu'on est... six frères.
Ah d'accord, c'est pas la même chose, c'est pas un bien qui a été acheté par le couple, enfin, ou par votre frère, d'accord, c'est un bien de la famille.
Voilà, je me suis mal exprimé au départ. Tout à fait.
Non, mais si c'est un bien de la famille, on en est en gros quasiment à la même situation qui a été évoquée avec les sœurs précédemment. Donc il n'y a pas de possibilité entre guillemets de décider seul. Donc après il y a ou il pourrait y avoir éventuellement un litige, mais vous savez, bon, après voilà, hein, chaque famille a entre guillemets c'est sa manière de gérer ce genre de situation. Mais je le dis souvent, et même aux clients dont on assure la défense, tout le monde y perd des plumes dans ce genre de dossier, en particulier quand un bien part aux enchères. Sincèrement, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Et même celui qui en est à l'origine. Donc, c'est une histoire d'être raisonnable. Il faut essayer de dialoguer avant de... Et là, j'allais presque dire, je fais même pas, vous voyez, je pourrais faire de la publicité pour ma mosquée, mais ça sert à rien d'aller courir chez l'avocat, parce que parfois, c'est le fait de dire à un membre de sa famille, j'ai été voir maître X ou maître Y, et ça peut mettre le feu aux poudres. Donc ça, vous pouvez le faire, mais à l'extrême limite. Mais dans ce genre de situation, faut essayer de raisonner d'abord les uns et les autres. Après, voilà, il y a des avocats, il y a des juges. Mais les conséquences sont toujours dramatiques. Et ça reste après dans les familles, ça marque les esprits.
Ah, tout à fait. Là, je pense, comme vous dites, que c'est quelque chose qui laisse une trace dans toute la famille.
Ben oui.
Mais comme je vous ai dit, moi, le plus important maintenant, comme j'ai toujours dit, hein, j'essaie d'un petit peu, je connais pas mal d'avocats, bon, étant donné que je suis aussi syndicaliste, je m'occupe de l'union locale de l'endroit où je suis, ça fait que je vois pas mal de monde. Mais comme je leur dis à tous, avant de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler, par exemple, comme vous êtes en train de faire, un avocat qui peut vous donner déjà des informations par rapport à la situation dont vous êtes, tout simplement.
Je le redis, hein, ça peut sembler curieux que l'avocat en gros dise ne venez pas me voir tout de suite, mais moi ça me semble normal de le dire, sincèrement. On a recours à l'avocat quand vraiment en face il y a une porte fermée et blindée et puis on veut pas discuter avec vous. Mais et en particulier dans les affaires de famille, parce que ça reste de génération en génération, et les enfants et petits-enfants, ça reste dans les esprits. On a tous, hein, dans notre famille, ce genre d'histoire des grands-parents qui ont fait ceci, qui ont été en litige avec un oncle, Bon, ça pourrit la vie des uns et des autres. Bon, quand on peut l'éviter, autant l'éviter après. Évidemment, s'il n'y a pas de discussion possible, ou si la personne en face n'est pas raisonnable, bon, il va falloir recourir éventuellement à la justice. Mais c'est vrai que je suis le premier à dire, même à mes propres clients, quand ils viennent me voir pour engager des procédures, je leur dis, essayez vraiment d'examiner toutes les options avant de déclencher des hostilités.
Merci, maître.
Merci à vous pour votre appel.
Merci, je vous remercie, maître. Merci à tout le monde.
Merci à Chemi pour votre appel. Maître Serran répond à d'autres questions dans un instant. Si vous voulez le joindre ce matin, vous l'appelez au 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Maître Serran, fidèle au poste comme tous les vendredis, que vous retrouvez tous les soirs à 20h, Maître Serran, et vous lui posez vos questions au 01 53 48 3000. On a Farid qui est avec nous, Maître Serran. Farid, bienvenue.
Ah oui, bonjour.
Oui, bienvenue, Farid.
Bonjour. Merci. Farid.
Bonjour, maître.
On vous écoute, Farid.
Ma question, c'est, je suis algérien et j'ai divorcé fin 2017 par constamment mutuel. Et pour inscrire le divorce sur mon acte de naissance, je suis bloqué. Parce que le divorce, il n'est pas reconnu par l'autorité algérienne.
Eh oui.
Et là, je veux savoir, je fais comment
C'est toute la difficulté. Et puis c'est vrai qu'on avait déjà fait un certain nombre d'émissions sur ce point-là. Donc on va rappeler les règles. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut divorcer par consentement mutuel sur le territoire français. Quand vous n'avez pas d'enfant, ça se passe... devant un notaire, puisque la loi a changé il y a maintenant un petit bout de temps. Alors ça peut c'est évidemment avantageux sur un plan purement financier, ça coûte moins cher, c'est plus rapide, sauf que pour des personnes dans votre situation, l'Algérie par exemple, mais pas que, il y a même certains pays européens d'ailleurs qui reconnaissent pas ce type de divorce, parce que ce divorce est prononcé par un notaire et pas par un magistrat. Donc la difficulté, monsieur, c'est que vous êtes effectivement alors divorcé sur le territoire français, mais c'est un divorce qui n'aura aucune incidence au pays. Donc c'est parfois un sac de nœuds. Alors il va falloir en tout cas engager une procédure au pays. Il n'y a pas d'autre option si vous voulez faire apparaître ce divorce sur vos actes d'état civil. Donc vous aurez en fait deux divorces. Donc un divorce prononcé sur le territoire français, mais valable que sur le territoire français. Et en Algérie, officiellement, vous serez toujours marié tant que vous n'aurez pas fait le nécessaire. Donc engager une nouvelle procédure. Mais en règle générale, en fonction bien évidemment de la nationalité de nos clients, l'avocat pose d'abord cette question à minima, savoir à qui on a affaire, la nationalité des clients, et puis c'est à l'avocat de dire que cette procédure est une procédure qui peut ou pas convenir. Donc c'est vrai, il y a quand même une erreur, pour ne pas dire une faute importante de l'avocat.
Allez-y. Je peux pas le refaire ici en France.
Non. Là, c'est vous êtes divorcé, c'est terminé. C'est-à-dire que vous pouvez pas engager une nouvelle procédure qui serait autre qu'un divorce par consentement mutuel. Non, sur le territoire français, là, c'est fini et vous pouvez plus contester cet aspect-là. Mais encore une fois, c'est vrai que on a des gens qui atterrissent au cabinet, qui sont dans votre situation sur le territoire français, on peut plus rien faire. Peut plus rien faire. Donc c'est problématique. Donc à charge pour vous d'engager une procédure au pays.
Ouais. Ok, merci.
Bon courage à vous en tout cas.
Merci Farid.
Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Amel au 01 53 48 3000. Amel, bienvenue.
Allô, bonjour.
Bonjour Amel.
Bonjour Amel.
Oui, j'aimerais poser une question au maître Ferrin, s'il vous plaît.
Bien sûr, allez-y Amel.
Oui, alors, un jour, j'ai effectué un achat sur Internet avec un paiement en plusieurs fois, sans frais. Il était précisé sans frais, sauf que par la suite, je n'ai pas arrêté de recevoir des courriers de Cofidis. Je les ai appelés pour arrêter ce genre de correspondance. Ce genre de courrier, mais...
Mais ce sont des courriers qui vous disent quoi
qui me proposent des... je ne trouve pas le mot.
Ils vous relancent pour faire d'autres crédits ou quoi?
Oui, exactement. Oui, c'est ça. Oui.
Voilà, ils vous proposent de... Ouais, et vous voudriez disparaître des fichiers, c'est ça?
Oui.
Qui vous relance pas, quoi.
Oui, voilà.
Bah, et ça poserait une difficulté si le courrier, à chaque fois, vous le prenez, vous faites un petit avion avec, ou vous le mettez dans une poubelle. Enfin, vous voyez, vous comprenez, c'est-à-dire pardonnez-moi une seconde.
Vous avez la loi informatique et liberté qui dépend de la CNIL.
Oui, absolument.
De la CNIL, donc vous pouvez demander à être supprimé des fichiers en saisissant la CNIL.
Non, mais sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Après, c'est vrai que souvent...
Faut le faire.
Voilà, quand on explique ça aux intéressés, alors d'abord, ils trouvent ça barbant, ce que je peux comprendre, parce qu'ils ne sont pas à l'initiative d'eux. Alors oui, juridiquement, il n'y a rien qui vous interdit de demander à ne plus être répertorié par tel ou tel fichier, que ce soit Cofidis, X ou Y. Bon, la démarche, vous pouvez la faire. Moi, je pars du principe et je suis très pragmatique. Quand il y a des courriers qui me gonflent et qui présentent aucun intérêt, notamment par ce genre d'institution, une fois que c'est ouvert, on comprend que c'est Cofidis ou autre, on le jette. Mais voilà, si vraiment par principe, vous souhaitez plus être dérangé par ce service-là, oui, vous pouvez écrire à la CNIL et puis leur indiquer votre volonté de plus être répertorié au sein de ce fichier. Ce qui se passe très souvent, c'est que ce soit, encore une fois, cette maison de crédit ou autre, les fichiers se vendent. Donc vous risquez, si c'est demain c'est pas cet établissement-là, vous risquez d'être relancé dans quelques semaines ou quelques mois par un autre service qui proposera absolument la même chose. Mais pardon pour cette réponse qui n'est pas juridique. Selon moi, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour ce genre de choses. Après, voilà, juridiquement, vous pouvez effectivement vous rapprocher de la CNIL.
D'accord, de la CNIL.
D'accord. Oui, voilà, c'est l'institution qui gère tous les listings, tous les fichiers, quels que soient, entre guillemets, les sociétés, de crédit ou pas. Bon, si vous sentez, entre guillemets, la force ou le temps de faire ce genre de démarche, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, enfin voilà, après, j'allais dire, je crois qu'il faut pas s'y miner avec ça. On reçoit tous des courriers quand vous êtes parti sur tel ou tel site ou quand vous avez contracté tel ou tel crédit, où les types, entre guillemets, vous lâchent pas. Bon, ça fait partie de leur boulot. Mais bon, à part les mettre dans une poubelle, moi, en tout cas, personnellement, ça me tracasse pas plus que ça. Mais si vous en faites une question de principe, c'est juridiquement possible, évidemment.
Ce qui me tracasse, c'est le fait que je dois, c'est-à-dire bien voir toutes les feuilles du courrier afin de bien détruire mon nom et mon prénom.
Ouais,
le fond du problème, c'est lequel, Amel, en fait? Vous avez eu un litige avec cette compagnie de...
Ah non, pas du tout, non. C'est juste la prise de tête, le fait de chercher mon nom afin de le détruire sur le courrier reçu.
Ouais, bon, il faut faire nettoyer les fichiers.
Voilà, dans ce cas-là, si vraiment, encore une fois, vous en faites une question de principe, ce que je peux comprendre, évidemment... Eh ben, faut aller à la source et vous adresser à la CNIL, et donc vous donnez évidemment toutes les informations, toutes les coordonnées, vous faites un petit récapitulatif de ce que vous êtes en train de nous raconter, et puis ils vont les inviter. Vous pouvez aussi, dans un premier temps, par principe, envoyer un recommandé donc à ce service financier pour leur dire que vous souhaitez plus être répertorié dans leurs fichiers et recevoir des courriers de leur part. Bon, c'est peu probable qu'ils en tiennent compte, mais ça établira au moins votre bonne foi auprès de la CNIL pour dire j'ai quand même officiellement invité cette structure à me laisser tranquille, et puis ils continuent. Donc vous gardez bien tous les courriers que vous avez reçus depuis le recommandé que vous enverrez à ce service-là, et puis vous envoyez tout ça au service de la CNIL.
D'accord. Ok, je vous remercie pour votre réponse.
Merci à vous pour votre appel.
Bonne journée.
Merci Amel. Allez, on termine avec Fatima qui est à Toulouse. Fatima, bonjour et bienvenue.
Bonjour Maître Ferrand.
Bonjour Fatima.
Tout le monde. Voilà, moi, c'est un problème. En fait, c'est pour un héritage. En fait, j'ai mon papa qui est décédé, mais par contre, ma maman est toujours vivante. Et voilà, on est 8 enfants, et sur 8, on est 7 à vouloir vendre un appartement au pays, parce que ma maman, elle est très malade, et elle n'arrive pas à accéder, en fait, à un appartement qui est de 4 étages. Et donc, on souhaiterait le vendre, mais on en a une, malheureusement, qui est le même cas que la personne, en fait, les personnes qui sont passées au
Paris. Non, alors voilà, vous, c'est plutôt le cas inverse, puisque dans l'histoire de l'auditrice précédente, tout le monde veut garder le bien, sauf l'une des personnes. Et là, vous voulez tous le vendre, sauf
nous,
l'une des personnes.
Voilà. Nous, c'est le contraire.
Bon,
et
ben...
Donc, nous, c'est surtout pour maman, qui, elle est très malade, elle ne peut pas accéder jusqu'au 4e étage. Et on souhaite lui vendre, justement, qu'elle vende cet appart pour qu'elle puisse acheter quelque chose de plus bas, afin qu'elle puisse accéder à un appartement qui lui appartenait. Je sais pas comment faire.
Non, mais il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'avoir l'unanimité des frères et sœurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment, vous voyez, et là, je vais pas répéter ce que j'ai dit au cas précédent, mais à partir du moment où l'un d'entre vous décide de vendre, et là, vous êtes la grande majorité... vous pouvez faire le nécessaire, et puis si ça se fait pas à l'amiable, avec l'accord évidemment de la personne récalcitrante, ce sont des dossiers qui terminent devant un tribunal. Mais je le redis, très souvent, ce genre de bien se vend aux enchères, et aux enchères, encore une fois, il n'y a pas de gagnant. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors évidemment, on arrive toujours.
Il y a des perdants.
Ben oui, on arrive toujours à sa finalité, mais il n'y a pas de gagnant. Par définition, tous les biens qui atterrissent aux enchères sont, c'est là entre guillemets, on fait les meilleures affaires. Donc, sont des biens qui sont toujours vendus, mais en deçà du prix du marché. Donc, juridiquement, vous pouvez aller au-delà de la volonté de cette sœur ou de ce frère.
D'accord, même si la maman est toujours vivante, elle ne peut pas avoir tout le droit, en fait, de faire ce qu'elle veut de cet
appartement. Non,
parce que le fait que le papa est décédé.
Mais oui.
Ok.
Bon,
ben, mais encore une fois, voilà. Alors bon, je veux pas faire l'imam, c'est pas ma mission, mais dans ce genre de, ouais, dans ce genre de litige, vraiment, et en qualité d'avocat, j'essaie de faire en sorte de raisonner même mes propres clients pour leur dire, écoutez, bon, ce sont des situations délicates, les esprits s'échauffent, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de gagnant, vraiment, il n'y a pas de gagnant, et les rancœurs perdurent ensuite auprès des enfants des uns et des autres, et c'est ça qui fait qu'il y a toujours une faille, voilà, au sein des familles. Donc il faut faire attention à ça. Bon, peut-être profiter de cette période du Ramadan pour faire en sorte que les esprits soient un peu moins chauds et apaiser tout le monde. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, entre guillemets, qui me sidère tout le temps dans les personnes qui sont de notre culture et de notre religion. C'est-à-dire, tout le monde est donneur de leçons, et puis quand il se passe ce genre de choses, eh ben, chacun reste sur sa position et il y a des rancœurs pas possibles. Ça me semble incompatible, j'allais presque dire, avec notre état d'esprit, mais bon. Après, c'est...
Enfin, les histoires de famille, Maître Serran...
Ah, mais pas spécifiquement au sein des musulmans,
les héritages révèlent quand même beaucoup de choses. Hein.
C'est terrible, mais voilà, il faut quand même...
Il y a des déchirures, il y a des choses qu'on ne croit même pas imaginer.
Ouais, réfléchir aux conséquences, encore une fois, c'est pas que vous et vos frères et sœurs, c'est que les enfants des uns et des autres, ensuite, finissent par ne plus se supporter. On finit même par oublier pourquoi on n'aime plus l'autre. Ouais, pour des vieilles histoires. Bon, après, quand les gens ne sont pas raisonnables, encore une fois, on fait appel à la justice.
Dommage. Bon, ben, merci beaucoup. Hein.
Merci à vous, bon courage.
Merci Fatima pour votre appel. C'est vous qui fermez le barreau aujourd'hui, tiens. En parlant d'imam, vous retrouvez l'imam Abdelali Mamoun ce soir à partir de 20h. Allô l'imam, c'est l'émission à laquelle l'imam Abdelali répond à toutes vos questions. Et Maître Serran ouvre le bal donc ce soir à partir de 20h. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous retrouve d'ici une petite heure pour vos petites annonces.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.